Allez, on part en Palestine.
Ouais, un sujet pas très drôle non plus, mais ô combien important, puisque en l'occurrence, la prison en Palestine, c'est une arme essentielle hein, de la colonisation, du système colonial israélien. Pour en parler, on avait reçu il y a quelques semaines Assia Zeino, auteur du livre Entre les murs, des hommes entre les murs, pardon, comment la prison façonne la vie des Palestiniens. C'était aux éditions Ago, n'est pas à la découverte, hein, comme j'ai dit au début. Elle était dans le studio en présence de plusieurs militants du collectif anti-impérialiste Coup pour Coup 31, collectif toulousain, qui lutte notamment pas mal sur la Palestine. Première partie aujourd'hui, deuxième partie demain. On commence tout de suite. Démarrer ce magazine consacré aux prisonniers palestiniens et en particulier en fait en réalité sur l'importance de la prison et des prisons israéliennes évidemment dans la vie et dans les luttes du peuple palestinien. Pour en parler avec nous, Assia Zeino, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens aux éditions Agone dans la collection Mémoire sociale et également de nombreux membres du collectif Coup pour Coup 31, ils sont quatre ici, Léontine, Anna, Fred et Jean, bienvenue sur Canal Sud. Pour commencer, Assia, toi tu es titulaire d'un master en histoire du monde arabe à l'INALCO, hein, Institut National des Langues et Civilisations Orientales. C'est dans ce cadre-là que tu as écrit ce bouquin ?
Oui, à la base c'était un mémoire de master. Après, on l'a retravaillé avec les éditeurs pour vraiment essayer de mettre en avant les témoignages, que ce soit les témoignages, les entretiens, les protagonistes, et que ce ne soit pas juste des sources pour des réflexions en anthropologie, en sociologie ou pour les sciences sociales, mais que ce soit vraiment eux les protagonistes. Donc il a été retravaillé le livre.
Un travail à la base plutôt universitaire, mais on a bien compris que le sujet montre bien quand même un certain engagement, une certaine solidarité avec les luttes palestiniennes, et il me semble bien que ce n'est pas pour des raisons universitaires au départ que tu t'es rendu en Palestine la première fois.
Oui, non, c'est ça. C'est à la base, je suis partie en Palestine plutôt pour des raisons politiques, pour une solidarité avec un peuple qui lutte contre l'occupation, contre la colonisation de ces terres. Et donc, j'ai passé 6 mois en Palestine, et c'est en habitant dans le village de Nabi Saleh, et d'abord dans un camp de réfugiés, que j'ai commencé à réfléchir à la place que la prison avait dans la vie des Palestiniens. J'étais prise en master à Paris, et j'ai décidé de faire mon mémoire sur ça, sur l'empreinte de la prison, le rôle de la prison dans la société palestinienne. Et donc j'ai passé un an et demi en Palestine, dans le village de Nabi Saleh, pour faire ce mémoire.
Le village d'où sont issus la quasi-totalité des 13 témoignages qui forment ton livre, on y reviendra tout à l'heure. Alors, tu dis que c'est en Palestine que tu as rencontré cette problématique de la prison, et pour cause, puisque cette problématique, elle est tout simplement omniprésente dans la vie des Palestiniennes et des Palestiniens. Tu démarres d'ailleurs ton livre, hein, dès l'introduction, avec un chiffre incroyable. Depuis 1967, un tiers de la population palestinienne de Cisjordanie est passée un moment par la casse-prison.
Oui. Donc, depuis 67, donc depuis l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, de Jérusalem-Est et du Golan, plus d'un tiers de la population palestinienne est passée dans les prisons, ce qui veut dire que dans chaque famille palestinienne, il y a au minimum un membre qui a connu la prison. Et donc la prison, c'est évidemment pas un phénomène marginal dans la vie des Palestiniens, c'est quelque chose qui envahit leur quotidien, qui fait partie de leur réalité. Et moi, j'ai choisi de travailler Pas tant sur les tortures et les violences que les prisonniers subissent dans les prisons de l'occupation, mais vraiment sur comment eux, ils ont été capables de reconstruire un lieu d'enfermement et de répression pour les transformer en laboratoire de résistance. Et c'est un peu ce qui ressort aussi de la plupart des témoignages, cette idée de redéfinir et de réinvestir la prison comme un autre front de lutte contre l'occupation.
Alors on va y revenir, on parlera notamment du mouvement des prisonniers, très important, qui a débuté dans les années 70. Mais d'abord quand même, on va donner quelques chiffres. Alors ils viennent de la plateforme Palestine, mais la plupart en fait viennent d'Adamir, qui est la principale association d'aide et d'entraide des prisonniers palestiniens. Adamir qui subit régulièrement d'ailleurs les foudres de l'administration israélienne, ils ont été perquisitionnés plusieurs fois, il y a eu des arrestations assez nombreuses, etc. Alors au mois de juillet 2016, donc on voit c'est assez récent, environ 7000 prisonniers palestiniens, dont 62 femmes, 350 enfants, en l'occurrence 350 mineurs, parce que moins de 18 ans, mais là-dedans il y a réellement des enfants, ça aussi on y reviendra, sachant qu'entre août 2015 et avril 2016, le nombre d'enfants détenus a triplé, selon Adamir. Donc on voit bien là l'importance quand même, on voit bien que c'est une population, les enfants qui est ciblée particulièrement. Selon le club aussi des prisonniers palestiniens, un autre chiffre, 1700 prisonniers malades incarcérés dans les prisons israéliennes, dont 25 dans un état critique, sachant que dans les prisons israéliennes, l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et depuis 1967, tu disais un tiers des habitants de la Cisjordanie sont passés par la prison. Un autre chiffre, une autre manière de le dire, plus de 800 000 Palestiniens ont été emprisonnés à un moment ou à un autre par les autorités israéliennes. Donc on voit bien là l'importance quand même que ça peut prendre, même simplement en nombre de détenus, sans même parler de l'impact après sur les familles et sur les proches. Quand on pense à la prison, on pense essentiellement à l'enfermement. Mais évidemment ce n'est pas que ça, c'est tout un processus qui accompagne la prison, et à commencer par l'arrestation souvent de nuit, avec une volonté claire de créer un traumatisme auprès évidemment de la personne arrêtée, mais aussi de toutes les personnes qui l'entourent.
Oui, la plupart d'arrestations, bon, là je pars de Nabi Saleh, mais c'est souvent le cas dans des différents villages et villes palestiniennes et camps des réfugiés. Les arrestations ont lieu la nuit, normalement vers 2h, 3h du matin. Donc le village est souvent entouré par l'égypte de l'armée. Les soldats rentrent dans plusieurs maisons du village pour arrêter la personne. Donc la plupart des fois, commence à fouiller toutes les chambres, à humilier souvent la personne qui vient arrêter devant leurs proches. Donc la plupart des cas, il les sort en pyjama, donc il leur empêche de dire au revoir à ses proches. Il les frappe souvent devant les enfants, dans le cas la plupart des arrestations visent quand même des hommes, donc c'est des hommes qui sont souvent humiliés devant leurs enfants, devant leurs compagnes, etc. Et aussi c'est aussi pour montrer que il n'y a pas il y a que la maison, même la maison n'est pas un abri, que les prisonniers, les soldats israéliens peuvent arriver à n'importe quel moment, détruire la porte, arrêter les gens, ou sinon aussi ils font des incursions la nuit juste pour faire une sorte de liste des jeunes, d'adolescents entre 12, 11 et 18 ans. Donc ils rentrent dans toutes les maisons du village, ils réveillent les enfants à partir de l'âge de 11 ans, ils les prennent en photo. Et donc comme ça, ils ont une liste un peu de tous les adolescents qu'un jour ou l'autre, ils iront arrêter.
Sorte de recensement.
Oui. Et donc, dans le cas de Nabi Saleh, qui organise des manifestations depuis 2009 pour rejoindre la source et les terres qui ont été confisquées par les colons, par la colonie d'en face qui s'appelle Halamish, les arrestations ont lieu soit pendant les manifestations ou sinon, dans la plupart des cas, la nuit, justement vers 2h, 3h du matin.
Alors sur ces arrestations et sur les brutalités qui les accompagnent systématiquement, il faut le dire, on va écouter un petit son. Alors c'est un extrait d'un film qui s'appelle Palestine, la casse-prison, un documentaire de Franck Salomé. Et en l'occurrence, c'est le témoignage d'un ancien soldat israélien.
Pendant mon service, j'ai arrêté des douzaines, si ce n'est des centaines de Palestiniens. Pratiquement toutes les nuits, nous faisions des incursions dans le but d'arrêter parfois une personne, parfois une dizaine. C'était pratiquement quotidien.
Avichai Stolar est membre de Breaking the Silence, un collectif d'anciens soldats qui témoignent des violences et des injustices qu'ils ont pu voir ou même commettre pendant leur service militaire.
Je peux peut-être vous raconter la première arrestation à laquelle j'ai participé. Je pense que c'est un bon exemple, parce que d'une certaine façon, c'est devenu la norme. Nous avons vu peut-être 10 Palestiniens menottés et les yeux bandés, assis sur des escaliers. Il y avait beaucoup de soldats, pratiquement toute mon unité. Et donc, les Palestiniens étaient assis et tous les soldats s'approchaient et les frappaient, les giflaient, leur crachaient dessus, les maltraitaient d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, nous devions ramener tous ces détenus à notre base, sans doute pour permettre aux services secrets de les prendre en charge. Et pendant le trajet retour, dans le camion militaire, nous n'étions qu'entre soldats, sans commandant, sans officier, même si cela n'aurait rien changé. Et pendant ce trajet, pratiquement tous mes amis ont frappé les détenus sans aucune forme de pitié. Ils criaient tous, et à un certain moment, et je ne peux pas dire que c'était par considération morale, juste, je ne supportais plus les cris des détenus, j'ai dit, c'est bon, arrêtez, ils en ont eu assez. Et immédiatement, tous mes camarades se sont tournés vers moi, me traitant de gauchiste, disant que j'aimais ces terroristes plus que mes propres amis. Évidemment, je n'ai ensuite plus rien dit.
I didn't dare to say a word.
Okay, I'm coming. Don't push me. I'm coming.
At one point, one of my friends.
Un peu après, l'un de mes amis a pris son mobile et a appelé son père. Il lui a dit, « Waouh, papa, on a attrapé un grand terroriste. Tu veux que je le frappe pour toi ?» Et je pense que son père a dû lui dire oui, parce qu'il s'est mis à frapper le détenu palestinien en tenant son téléphone pour que son père puisse entendre les cris. Et ça a duré comme ça jusqu'à notre arrivée à la base.
Il suffit d'aller faire un tour sur le web pour découvrir des arrestations violentes comme celle-ci, où un soldat tire à bout portant dans la jambe d'un Palestinien menotté et les yeux bandés. Et cette violence n'est pas exceptionnelle.
On peut dire qu'à chaque fois qu'un Palestinien se retrouve à l'arrière d'une Jeep ou d'un camion militaire, assis au sol, menotté, les yeux bandés, entouré de soldats, il est toujours frappé.
Voilà pour ce témoignage d'un soldat israélien, membre de Breaking the Silence, donc des soldats israéliens, des anciens soldats israéliens qui essayent de briser l'omerta hein, sur les pratiques de la soldatesque israélienne dans les territoires occupés. Alors, on vient de parler de l'arrestation avec toi, Assia. Hein, je rappelle que tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens ». Donc, on vient de parler du moment de l'arrestation. On a vu qu'il y a déjà des passages à tabac systématiques, presque gratuits, j'ai envie de dire. En réalité, ils ne sont pas gratuits, évidemment. Ils participent à une culture de la peur et ils participent au système répressif. Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite, ces gens-là, s'ils sont vraiment arrêtés, parce qu'il peut y avoir des fausses arrestations, mais s'ils sont vraiment arrêtés, on va les amener, évidemment, là où ils sont en détention. Et là, il va y avoir commencer l'enquête en quelque sorte et les interrogatoires. Interrogatoires évidemment, où là aussi il y a des passages à tabac, des humiliations, des coups de pression, et voire même de la torture, même si ça en l'occurrence c'est peu dit dans les témoignages. Tu peux peut-être nous en dire un mot.
Oui, donc normalement, après l'arrestation, les prisonniers sont amenés dans les centres d'interrogatoire qui il s'appelle Moscoubia ou Russian Compound, et c'est un centre d'interrogatoire très célèbre parmi les détenus parce que c'est un endroit où évidemment il y a beaucoup des violences, beaucoup de tortures. Il faut dire c'est la justice militaire qui s'occupe des Palestiniens. Et donc, ce qui crée aussi une différenciation, une sorte d'apartheid, de différenciation juridique sur base ethnique, parce que dans les territoires occupés, les Palestiniens sont jugés par la cour militaire, tandis que les colons qui habitent en face sont évidemment jugés par la cour civile. Et pareil, même les Palestiniens qui ont une carte d'identité israélienne, ils sont quand même jugés par une cour militaire, considérés donc comme des traîtres du pays, du pays. Et donc il y a aussi une double peine. Les, par exemple, les Palestiniens de 48, donc les Palestiniens qui habitent en Israël, ils, par exemple, ils sont exclus de toute possibilité d'échange des prisonniers, comme ça a été le cas dans les cas de l'échange Shalit. Donc c'est la justice militaire israélienne s'occupe des Palestiniens, ce qui veut dire que aussi les Palestiniens sont tous considérés des prisonniers de sécurité, tandis que eux, évidemment, ils se revendiquent comme des prisonniers politiques. Et en étant des prisonniers de sécurité, ils sont exclus de tout, possibilité d'aménagement de peine, etc. La question des tortures, c'est quelque chose qui n'émerge pas dans les témoignages de ces livres. Pour différentes raisons, je pense qu'il y a une pudeur, une gêne, la volonté de ne pas parler des humiliations et des violences subies, mais vraiment de mettre en avant la résistance et tous ceux qui ont été capables de faire malgré cette violence. Mais c'est évident que chaque prisonnier est systématiquement torturé lors de l'interrogatoire, ce qui est le cas pour les mineurs aussi. Il faut dire que les Palestiniens sont considérés majeurs à partir de l'âge de 16 ans et que, à différence des Israéliens qui, comme dans la plupart des pays, sont majeurs à l'âge de 18 ans, et que les jeunes Palestiniens peuvent être arrêtés à partir de l'âge de 12 ans, mis dans des prisons avec les adultes et aussi condamnés à des peines très longues. Donc il y a un adolescent de 14 ans, par exemple, qui a été condamné récemment à 14 ans de prison. Et donc eux aussi sont torturés sans la présence, ils sont interrogés sans la présence de leurs parents, sans la présence de l'avocat. Un détenu palestinien peut rester 18 jours sous interrogatoire sans que personne sache où il est, dans quelle prison il est, sans que sa famille ait des nouvelles. Et l'interrogatoire, évidemment, pour des soi-disant raisons de sécurité, peut être renouvelé. Donc, il y a eu des cas des prisonniers qui ont été sous interrogatoire pendant 60 jours. Et pendant ce temps-là, personne ne savait où ils étaient. Donc, il y a aussi des prisonniers qui, à un moment, ils disparaissent.
Alors, tu as déjà commencé, donc là on parlait des interrogatoires, tu as commencé déjà à aborder le système judiciaire, donc tu l'as dit, c'est une justice militaire, hein. Tous les Palestiniens qui sont dans les territoires occupés sont sous le coup de la justice militaire, donc une justice d'exception. Alors, il faut pas croire que ce sont que les militants politiques hein, qui sont concernés, c'est même loin d'être le cas. Je vais vous donner quelques chiffres qui datent tous de 2012 et qui viennent d'un rapport militaire israélien, pardon... Non, je pense c'est pas possible, là, on est en plein... Donc je vais vous donner quelques chiffres qui datent de 2012, qui sont tous issus d'un rapport militaire israélien, alors qui parle à ce moment-là de 7276 comparutions devant la justice militaire pour cette année 2012. Là-dessus, 3224, c'est des infractions routières. Donc déjà, là, on voit bien que ça n'a absolument rien de politique. Ensuite, travail illégal, 1358. Les affaires criminelles, mais affaires criminelles qui n'ont pas de lien avec une action politique, on est à 540. Donc vous voyez déjà là qu'il ne reste plus grand-chose pour la partie politique. Et alors dans la partie qu'on pourrait qualifier de politique et qui sont vraiment considérées par Israël comme des atteintes à sa sécurité, il n'y a plus que 861 personnes pour atteinte à l'ordre public. Alors là, atteinte à l'ordre public, il suffit d'être dans une manif, il suffit de sortir un drapeau palestinien au mauvais moment, voilà. Donc c'est pas forcément grand-chose. Et... il en reste donc 1390 qui sont vraiment là pour le coup des militants politiques engagés. Donc il ne s'agit pas de dire que ces gens-là méritent plus que d'être arrêtés, mais on s'aperçoit bien qu'en fait cette justice militaire, elle s'applique à tout le monde dans le quotidien le plus basique. Hein, je le redis, 3224 arrestations de comparution devant un tribunal militaire pour des faits d'infraction routière en 2012.
Oui, et tout ça, c'est aussi parce que la justice militaire israélienne est la seule structure qui s'autofinance grâce aux amendes, donc qui n'a pas des besoins des fonds du gouvernement, mais qui s'autofinance grâce aux amendes et aux cautions qui payent les familles des Palestiniens. C'est pour ça que pendant la première intifada, c'était... très rare que les cautions, de payer les cautions, parce que c'était une autre façon de soutenir, de soutenir le système qui va emprisonner les Palestiniens. Et la question des cautions est souvent très problématique, parce que d'un côté, parfois, certaines familles sont obligées de les payer en faisant des collectes, etc., parce que la personne qui est emprisonnée, elle est sous le soutien économique de la famille. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment quelque chose... Enfin, il y a dans une famille, il y a des personnes qui peuvent être arrêtées même 10 fois dans leur vie, et donc payer 10 fois la caution, 10 fois l'amende, ça veut dire d'un côté soutenir le système militaire israélien, et de l'autre côté c'est très compliqué économiquement pour les familles palestiniennes. Donc aussi toutes ces arrestations, c'est aussi fait juste pour des raisons économiques, et de l'autre côté la prison, ça fait vraiment pas, c'est vraiment devenu un mode de gouvernement israélien de la population des territoires occupés. Donc c'est à la fois une façon de recenser tous les Palestiniens des territoires occupés, et aussi d'essayer de pousser certains à la collaboration, en leur promettant de les faire sortir, en les arrêtant pour rien du tout, en leur promettant de les faire sortir, ou de leur donner le permis de se rendre sur territoire israélien. Donc le système carcéral, c'est aussi utilisé par Israël comme mode de gouvernement et de gestion de la population des territoires occupés.
Et donc un mode de gouvernement militaire, on l'a bien compris. Donc effectivement, la possibilité de voir un avocat est extrêmement compliquée, hein, ça va extrêmement restreinte. Un prisonnier peut être détenu 2 fois 90 jours, hein, donc 180 jours, sans voir un avocat. Voilà. Pour dire quand même un dernier chiffre sur la justice militaire, 99,74% des Palestiniens inculpés par la justice militaire israélienne sont condamnés. Donc oui. On voit bien que là, c'est quasiment... on est dans une espèce de chambre d'enregistrement presque. Hein, ça, oui. La condamnation est quasi automatique. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais une très importante, c'est le plaider coupable. C'est-à-dire que l'accusé peut plaider coupable, et à ce moment-là, une négociation s'organise entre l'avocat, on va dire, enfin en tout cas entre l'accusé et la justice militaire. Et c'est une option qui est très souvent retenue, parce qu'en l'occurrence, sinon les procédures sont extrêmement longues, et que des fois le plus simple, c'est d'avoir recours à ce plaider coupable. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ?
Oui. Donc il y a certains prisonniers qui décident de plaider coupable, justement parce que les procès peuvent durer des années, et donc après la condamnation, le dernier procès à qui j'ai assisté, ça a duré plus ou moins 9 mois. Donc c'était une fois il y avait les témoins, une fois donc les témoins de l'accusé n'a pas pu rentrer dans la cour militaire parce qu'il avait un plâtre, et donc ils pensaient qu'il avait une arme cachée vu qu'il avait un plâtre et que c'était évidemment un Palestinien, et donc ils ont repoussé le procès des 4 ou 5 mois. Et souvent en plus le détenu n'a pas droit aux visites parce que souvent la plupart de ses proches soit a déjà été en prison et donc ne peut pas aller aux visites, ou sinon
si on a déjà été une fois en prison, on ne peut pas revenir même comme visiteur. D'accord.
Non. Et aussi vu que depuis 2004 toutes les prisons israéliennes et toutes les prisons ont été déplacées dans le territoire israélien pour se rendre sur le sol israélien, on a besoin d'un permis qui est délivré des forces d'occupation, et ce permis n'est pas délivré aux hommes qui, à partir de l'âge plus ou moins des 15 ans jusqu'à 50 ans. Donc c'est vraiment très compliqué pour les prisonniers de recevoir des visites. Et le fait de plaider coupable, pour certains, c'est vraiment l'occasion de pouvoir sortir un peu plus vite. De l'autre côté, il y en a qui refusent de plaider coupable parce qu'ils refusent de reconnaître la plupart, ceux qui sont, on va dire, les militants plus engagés, ou refusent de reconnaître la cour militaire israélienne, refuse de reconnaître sa légitimité, et donc il décide de payer le prix, donc de rester plus en prison, mais de ne pas plaider coupable parce qu'ils ne reconnaissent pas l'institution de la justice israélienne, militaire israélienne.
On arrive enfin à l'enfermement lui-même. Donc enfermement, tu l'as dit, qui avec un isolement important, isolement au sein de la prison, isolement avec des refus de visite, et puis isolement parce que toutes les prisons, alors à l'exception d'Auffer, je crois, oui, peut-être, mais toutes les prisons sont hors du territoire palestinien, et que tu l'as dit, c'est pas du tout évident pour les Palestiniens de se rendre en Israël. Ce qui fait que des fois, même si c'est à une demi-heure de route dans l'absolu, la prison serait à une demi-heure de route de là où habitent les familles palestiniennes, ça peut représenter des voyages de 10 heures, 15 heures. Oui. Et donc ça, il faut le faire aller-retour, évidemment. Donc des fois, ça prend plus d'une journée de simplement d'aller visiter quelqu'un. C'est extrêmement compliqué, surtout si on est un peu âgé ou si on est un enfant en bas âge.
Oui, et aussi, et donc, enfin, cette question des visites, c'est vraiment, enfin, c'est une question très importante, et c'est un moyen que l'administration pénitentiaire utilise pour faire pression. Actuellement, les visites sont possibles que pour les parents ou les enfants ou les frères et les sœurs du détenu. Dans la plupart des cas, c'est vraiment une histoire des femmes parce que c'est les seules qui peuvent se rendre. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a certaines femmes de Nabi Saleh qui participent aux manifestations. Elles non plus, elles peuvent pas se rendre pour des raisons de sécurité. Elles sont interdites de visite. Mais normalement, c'est les mères des prisonniers, les sœurs des prisonniers qui organisent des longs voyages qui commencent à 4h du matin justement et jusqu'à minuit. Parfois, des mamans qui ont plusieurs enfants en prison doivent donc faire le tour des différentes prisons israéliennes pour pouvoir voir leurs enfants et pour une visite qui dure à peu près 40 minutes avec beaucoup de difficultés parce que parfois les téléphones ne marchent pas parce que depuis, je pense, les années 2000, ils ont mis une vitre donc les prisonniers ne peuvent pas toucher ses proches et donc il parle à travers un téléphone qui pour, d'un côté est écouté par les autorités israéliennes et de l'autre côté ne marche pas beaucoup.
Il y a aussi une arme très importante et qui là est même hors justice, mais qui est très importante, c'est la détention administrative. Alors là, c'est très intéressant parce que la détention administrative, c'est un héritage de l'époque coloniale britannique. Donc là, on voit bien qu'il y a une lignée directe avec les pratiques impérialistes, on va dire, classiques.
Oui.
Alors, donc, peut-être dire d'abord, expliquer ce que c'est que la détention administrative.
Oui, donc la détention administrative, que justement, c'est un héritage du mandat britannique. C'est une procédure qui permet de garder en prison pendant 6 mois, et cette détention est renouvelable donc tous les 6 mois, sans chef d'inculpation. Donc un prisonnier peut se retrouver en prison sans qu'il sache pourquoi. Et en fait, même les juges militaires qui est censé dire s'il doit rester ou pas en prison, il peut ne pas être au courant des accusations. Ça suffit qu'un officier israélien dise c'est pour des raisons de sécurité, c'est un dossier sécurisé qu'on ne peut pas vous montrer, mais il faut que cette personne reste en prison. Et donc ça suffit au juge pour dire oui, d'accord, il reste en prison. Et il y a des prisonniers qui sont en prison depuis 8 ans, 9 ans, sans savoir pourquoi, avec une détention qui donc est renouvelée tous les 6 mois, ce qui est très douloureux pour le prisonnier soi-même, pour sa famille, parce que tous les 6 mois, la famille, le village, les prisonniers se préparent à sortir. Et en fait, la veille, les autorités pénitentiaires leur disent « bah non, tu vas rester 6 mois en prison de plus ». Et ça, de façon indéfinie. Donc le prisonnier ne sait jamais quand il va sortir. Et juste donc par rapport à ça, en fait, on voit bien que le gouvernement israélien a utilisé plusieurs type de droit qui vient à la fois du mandat britannique, la détention administrative, mais aussi du droit jordanien à l'époque où la Cisjordanie appartenait, on va dire, à la Jordanie après 48, après l'occupation. Par exemple, dans le cadre de la terre des absentes, donc l'idée que qu'une terre peut être confisquée, notamment par les autorités israéliennes, s'il n'y a pas des propriétaires qui se montre d'ici un certain temps. C'était une loi du droit ottoman jordanien. Donc les Israéliens ont vraiment créé une sorte de mosaïque de droit pour pouvoir juger les Palestiniens. Évidemment que pour les Palestiniens, parce que les Israéliens sont jugés selon la loi civile israélienne. Donc c'est vraiment essayer de construire un droit spécifique pour les Palestiniens, pour pouvoir les garder en prison, pour pouvoir violer tous leurs droits, etc.
Alors, il y a actuellement à peu près 750 Palestiniens qui sont détenus sous ce régime de la détention administrative. Donc, on voit, c'est un peu plus de 10% du total des prisonniers. Évidemment, on ne l'a pas précisé, mais est-ce vraiment nécessaire? Israël bafoue un nombre incalculable de lois internationales et bafoue largement le droit international dans cette gestion des prisons et dans cette gestion du peuple palestinien. Notamment, tu parlais des prisons qui sont toutes situées en Israël alors que les prisonniers sont palestiniens. Ça, c'est évidemment en violation totale du droit international. Mais enfin, on est habitué avec l'État d'Israël. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause. On va s'écouter un peu de hip-hop palestinien. En l'occurrence, c'est le groupe Dam. Et le morceau s'appelle Rezale in Zanzana. Alors, je m'excuse, j'écorche l'arabe. Mais ça veut dire l'être d'une cellule de prison.
اشتقت لدموعك ابكي دموعك بتروي الحضن اللي فيه ابكي يا ابني
الى ام الحبيبه مقهور لاني في البيت وانت الاسيره بلومومي لاني بالخارج وانت بالداخل عار عن ما بعترف بدور النساء المنار طول حياتك حمل القضيه انسى جنتي وانت حامل فيه اول بكاء اللي كطفل كان فيه صرخه صرخه حريه اعدام طريه خطبان اسيه انا اسير ابن اسير الطفل الوحيد بسجن نساء انولدت بالسجن وانتي لسه عاشقه كطفل كلب شاتك كانوا العابي كنت ترضعيني في الواعي فربيت واعي اكبر فرحه كانت لما تلاقي السلمه شفت ابوي بس كان لي اكتر من
لا تبكي يما صار على دموعك لا تبكي يما ما طريت دموعك بيطفي النار اللي فيه
ابكي يا ابني اشتقت لدموعك ابكي دموعك بتروي الحضن اللي فيه ابكي يا ابني
ايام تمر ايام تروح وانا ضايق المر اسمي زي الكل اسير او معتقل بعدها بيجي اي رقم البني متوفر اي لون تاني انعدم مصير الاحرار انهطي نسلم هيك سمعت بس ما فهمت لحد ما انحبس صغير لدرجة ان لسه ملحية تسمع اي صديق اي صديق يسألني اتجوزت بفكر بشو عملت بقول الواجب بفكر بشو تركت امي ووطن حالي واذا فكرت بالوالد فيا بشاركني بنفس البرد وبنفس الخبز اليابس وبنفس الشمس مش اللي على دائرة الرسم شمسنا بمرافعات صغيرة تنحسر بفكر بالندم نعم على اني انمسكت ولسه شعبي بالظلم ينحكم
لا تبكي يما صار على دموعك لا تبكي يما ما طريت دموعك بيطفي النار اللي فيه
ابكي يا ابني اشتقت لدموعك ابكي دموعك بتروي الحضن اللي فيه ابكي يا ابني
متخيلك ملاك فستان ابيض وطرحه ردي جنبك تا اشاركك بها الفرحه خطفوني لوقت غير محدد قبل ما تلفظي بابا سمعتي حكم مؤبد عندي اليوم والغد كلمات مرادفه اسمي سجن امني عمري 20 رزنامي مفروض مع عزيمة استقبل فاصلة ابتسم فاصلة اعبطكم وادبك نقطة ريت الحفيد يحضن سيده الرطوبة عجلة الدادة وهم في التاريخ كنت لازم دم اتغير تسجن يتحرك هالمستشفى انفضى كلهم كمامات وانا بكلبشات عالسرير ما هو في الجاذبية خايفين اطير لتأجل الفرح بحكي للصورة بحكيكي طريق صورة ريت البطولة اختيار يا ريتها مش مفروضة
Thank you.
Le groupe d'âme, groupe palestinien de hip-hop, une lettre depuis les cellules de prison. C'est un morceau qui, je crois, date de 2-3 ans et qui a été écrit en soutien à une grève de la faim de prisonniers palestiniens. Des grèves de la faim, il y en a eu plusieurs. Et ça nous permet d'enchaîner vers le mouvement des prisonniers palestiniens. On l'a cité tout à l'heure. Mouvement qui est né au début des années 70 et qui est en fait la création d'un nouveau front, on peut le dire, dans la lutte palestinienne. Assia Zaino.
Oui, donc les mouvements des prisonniers palestiniens commencent à se structurer à partir des années 70, quand les arrestations deviennent plus massives en conséquence d'une augmentation de la colonisation et donc une augmentation d'affrontements avec les autorités occupantes. Donc il y a des arrestations massives et les prisonniers commencent à pouvoir s'organiser. Les premières luttes sont des luttes pour accéder aux biens matériaux, donc pour avoir accès aux couvertures, pour avoir accès aux matelas, et pour aussi avoir accès à la nourriture. Et donc c'est à travers ces luttes, c'est des grèves de la faim et des affrontements aussi directs avec les autorités pénitentiaires, en particulier dans le cas des camps de rétention qui se trouvent dans le désert, où c'est souvent l'armée qui gère la prison. Et donc, à travers ces luttes, le mouvement se structure au fur et à mesure, jusqu'à devenir, dans les années 80 et au début des années 90, vraiment une structure de contre-pouvoir qui permet de gérer la vie du détenu, de l'organiser, et permet surtout de ne jamais s'adresser à l'autorité pénitentiaire. Donc, il y avait un emploi du temps très strict qui était établi de quelque sorte par le mouvement des prisonniers. Donc il y avait des heures de sport, des heures de cours très développées. Il y avait cette idée donc de la prison comme université, comme école à la fois politique mais aussi intellectuelle, culturelle. C'était très importante dans les différentes organisations et en particulier jusqu'aux accords d'Oslo dans le cadre du Front Populaire du FPLP. C'était ceux qui donnaient le plus d'importance à cette éducation et à cette formation en prison. Et donc le mouvement des prisonniers se développe donc dans les années 70 jusqu'aux années 80-90. Et par exemple, on a dans chaque prison, on a une constitution qui est votée, qui est écrite et votée par tous les prisonniers. Il y a un sort de tribunal qui s'appelle le tribunal révolutionnaire qui sert à gérer un peu la justice interne, donc aussi dans des cas des collaborations présumées avec l'occupante, dans des cas des conflits interne entre les prisonniers. C'est vraiment l'idée de ne jamais s'adresser à l'autorité israélienne. Il y a aussi donc des représentants qui sont des élections qui s'étaient nées régulièrement dans les prisons avec des représentants qui étaient élus pour dialoguer pour mener les négociations avec l'autorité pénitentiaire et pour éviter donc qu'elle fasse des différenciations entre les détenus. Et donc les mouvements des prisonniers, c'est aussi quand on parlait des prisonniers des droits, enfin des prisonniers palestiniens qui sont incarcérés pas pour des raisons spécifiquement politiques, c'est le mouvement des prisonniers, la prison, c'est aussi l'occasion d'une politisation de ces jeunes qui sont souvent arrêtés soit pour des infractions routières, mais aussi parce qu'ils jetaient des pierres un peu sans savoir pourquoi. Et donc c'est grâce au mouvement des prisonniers que beaucoup des jeunes et d'autres qui se sont retrouvés en prison sans trop savoir pourquoi, ils commencent tout un parcours de formation à la fois politique mais aussi scolaire, parce que la plupart des prisonniers qui rentraient en prison sans savoir lire ni écrire en sortaient alphabétisés. Il y avait des échanges très fort entre différents types de prisonniers, parce qu'en Palestine évidemment aussi il y a des classes, il y a des riches, il y a des pauvres, et donc c'est dans les cellules se retrouvaient le médecin, les paysans, l'ouvrier du camp des réfugiés, celui qui allait travailler en Israël parce qu'il n'avait pas de moyens. Et donc ça se La prison devenait parfois le seul endroit où certains prisonniers et certains Palestiniens qui étaient séparés par des murs, par des checkpoints, pouvaient se rencontrer. Et donc, ça permettait aussi de créer un réseau de solidarité très fort qui couvre un peu tout le territoire palestinien. Parce que à l'intérieur de la Palestine, il y a aussi des différenciations entre la population qui vient la population qui vient des camps des réfugiés, celle qui vient des villes, les paysans qui habitent les villages. Et donc, à l'intérieur du mouvement des prisonniers, cette différenciation donnait lieu à un échange, à une formation qui a permis aussi, en particulier pendant la première intifada, que tous les prisonniers, que beaucoup de prisonniers sortis des prisons deviennent le leader d'une certaine façon de cette révolte, et qui s'est créé plein de comités populaires qui se sont créés pendant la première intifada, prenaient de quelque sorte les modèles de l'organisation à l'intérieur des prisons, qui étaient donc connus par des personnes, des Palestiniens, à la fois à Jéricho ou à Jenin ou à Ramallah ou dans un camp de réfugiés de Daesh. Donc c'était... La prison a aussi permis ça, a aussi permis à des Palestiniens de se rencontrer et de construire un autre front de lutte qui était celui donc de la prison. Pendant la première intifada ou pendant les années 80, il y avait aussi beaucoup d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur. À la fois, il y avait un gros soutien aux grèves des prisonniers, parfois des grèves qui commençaient en prison devenaient des soulèvements, des luttes très fortes dehors. Il y avait des communiqués qui sortaient des prisons pour donner des directives aussi des luttes aux personnes qui étaient dehors. Donc là, c'est en partie jusqu'aux accords d'Oslo où soi-disant c'était des accords de paix. Après, on sait tous ce qui a donné, mais donc
l'accord d'Oslo 1993.
Donc après les accords d'Oslo, la plupart des prisonniers sortent des prisons, même si c'est pas tous les prisonniers. Donc en 94-95, environ 350 personnes se retrouvent en prison. Donc c'est un nombre très réduit, et c'est très compliqué de se réorganiser. Cependant, les arrestations ne cessent pas, au contraire, elles redeviennent massives, mais le mouvement peine à se réorganiser, a du mal à redevenir...
C'est la fameuse césure dont tu parles dans ton livre, la césure de 93, cette libération massive de prisonniers prévue par les accords. Et du coup, alors donc depuis ?
Et donc depuis, les mouvements existent toujours, mais donc il a perdu de pouvoir, il a de certaines façons... ça existe toujours une idée des formations à l'intérieur des prisons, une idée des luttes qui continuent à l'intérieur des prisons, mais c'est les mouvements, mais en général, comme en vrai aussi la société palestinienne, la lutte du peuple palestinien, ça évolue, et le mouvement des prisonniers reflète à la fois de l'histoire générale palestinienne, mais a aussi une histoire un peu parallèle, parce que justement à des par exemple quand en 2006 il y a eu une séparation une séparation très dure entre le Fatah et le Hamas à la suite des élections gagnées par le Hamas en 2005, c'est cette différenciation très forte qui s'est retrouvée aussi dans les prisons, parce qu'à bout d'un moment il y a eu des affrontements très durs, des meurtres aussi entre une partie et l'autre. Ces personnes même se retrouver dans les mêmes prisons israéliennes, et donc le mouvement des prisonniers a décidé qu'eux, ils ne voulaient pas participer à ça, à cette division. Donc ils ont écrit un document qui était le document des prisonniers, qui mettait en avant cette identité commune des prisonniers politiques, des prisonniers, et qui appelait à l'unité nationale en disant nous on est d'abord des camarades de prison, on est d'abord des prisonniers sous l'occupation israélienne, et donc on appelle à l'unité, on refuse, on rejette tous ces particularismes, ces différenciations partitiques qui, à partir de dehors, influencent de façon très négative l'intérieur des prisons. Donc le mouvement des prisonniers d'un côté, c'est l'histoire du mouvement des prisonniers, qui c'est une histoire aussi qui est beaucoup racontée, beaucoup transmise d'une génération à l'autre. C'est une histoire qui est aussi le reflet de tout ce qui se passe, évidemment, dans la société palestinienne, dans l'arène politique palestinienne.
Alors, et qu'est-ce qu'on peut dire du présent de ce mouvement des prisonniers, du coup? Parce que là, on a parlé pas mal du passé. Oui. Et aujourd'hui, en 2017, est-ce qu'il est encore constitué de manière forte? Est-ce que cette unité entre les différents acteurs, Fatah, FPLP, Hamas, etc., se retrouve encore dans les prisons? En tout cas, au moins dans le sein du mouvement des prisonniers? Ou est-ce que tout ça est un peu compliqué?
Actuellement, le mouvement des prisonniers existe toujours. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'il y avait dans les années 80, dans les années 90. L'autorité pénitentiaire a su exploiter les différences, a su exploiter un peu les divisions. Donc, en réponse de ces documents qui parlaient de l'unité nationale et du fait qu'ils voulaient être d'abord des prisonniers, la réponse de l'autorité israélienne, c'était de créer des prisons pour le Hamas, des prisons pour le Hamas, des prisons pour le Fatah, pour donc les séparer. Et aussi, il joue beaucoup sur, parce que donc Israël c'est aussi l'avant-garde capitaliste, néolibérale, etc. Et donc il aussi au niveau des prisons, ils sont pas mal à l'avant-garde. Donc il y a beaucoup de prisons qui sont maintenant gérées par des boîtes privées, où il y a moins de gardiens, où tout est automatique, donc il y a l'impression qu'il y ait moins des soldats, mais évidemment tout est joué sur des caméras, etc. Et dans cette prison-là, certains détenus qui sont considérés un peu comme des leaders ou comme des détenus influents, soit sont mis en isolement, mais certains d'autres, ils ont des facilitations. Ils ont par exemple une chambre avec la télé, etc. C'est pour créer de la suspicion, de se dire, ah d'accord, lui peut-être il a collaboré, c'est pour ça qu'il a eu droit à la télévision. Donc c'est quelque chose sur lesquels l'autorité pénitentiaire joue beaucoup. Également le fait d'essayer, à différence de ce qui s'est passé dans les années 80, où le mouvement des prisonniers a vraiment insisté à ce que les Palestiniens de différentes provenances se retrouvent dans les mêmes cellules pour casser un peu les particularismes régionaux et vraiment faire rencontrer des Palestiniens de différentes origines. Là, l'autorité pénitentiaire, pareil, essaye de regrouper ceux du Bethlehem, ceux du camp des réfugiés, ceux de Nabi Saleh, pour un peu casser la dynamique du mouvement. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans un climat aussi en Palestine, en particulier à Ramallah, de frustration aussi, parfois de désaffection, de perte d'espoir, le mouvement des prisonniers, les grèves des prisonniers restent un élément très fédérateur qui fait bouger le peuple palestinien, qui fait organiser des manifestations. Chaque grève des prisonniers a eu quand même un soutien, des mouvements de soutien qui s'est créé dans toutes les villes palestiniennes. Mais c'est quand même quelque chose qui c'est un des éléments qui a encore fait bouger les peuples, mais pas au niveau de pas comme c'était dans le passé. Mais ça, c'est le cas des plus, enfin c'est pas que la prison, c'est un peu la situation actuelle de la société palestinienne.
Oui, c'est ce que tu disais, hein. De toute façon, la prison est un reflet de ce qui se passe dans la société palestinienne. Alors, on n'a pas trop entendu jusqu'à présent les membres du collectif Coup pour Coup qui sont avec nous dans le studio, mais Fred, je crois que tu voulais intervenir.
Oui, du coup, je voulais savoir dans les... On a vu tout à l'heure que les autorités israéliennes, du coup, bafouent les droits internationaux, et je me demandais, dans les années 70, du coup, quand les mouvements, ils ont commencé, est-ce que... Quel espace les prisonniers ont réussi à obtenir? Enfin, comment ils ont réussi à s'organiser? Est-ce que c'était plutôt de manière secrète au sein des cellules, dans un but justement de... est-ce que c'était vraiment de manière secrète, ou est-ce que c'était en quelque sorte revendiqué? Et du coup, est-ce que les autorités ont, on va dire, un peu laissé faire? Et puis, enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît?
Oui, ça dépend, dans le sens où il y a eu plusieurs luttes qui ont amené, par exemple, Il y a eu des grèves, il y a eu des grèves de la faim qui ont duré 14 jours et qui ont permis l'accès aux livres, à certains types de livres, pas aux livres politiques, mais en tout cas que certains livres commencent à rentrer dans les prisons. À un moment, ils ont obtenu, à travers une autre grève, de pouvoir accéder, de pouvoir passer le bac en prison, ce qui a été enlevé à la suite de l'enlèvement du soldat de Shalit à Gaza. Mais donc, évidemment, tout ça a été obtenu à travers des affrontements très durs, parce qu'à la base, les prisonniers n'étaient pas censés marcher. Il s'était interdit pour les prisonniers de marcher en groupe de 4, de plus de 4. Aussi, toute cette organisation de l'université à l'intérieur de la prison, ça s'est créé. D'abord, on s'est créé, et après, c'était vraiment à travers. Enfin, c'était toujours. Il gagnait, à travers des luttes très fortes, il gagnait quelque chose. Et après, dès que l'autorité pénitentiaire voyait un moment de faiblesse, par exemple, les accords d'Oslo, ça a permis que toutes les victoires, vu qu'il y en avait presque plus, il y en avait juste 350, a permis d'enlever, d'arracher toutes les victoires que le mouvement avait obtenues jusqu'à là. Et donc, le mouvement a dû aussi recommencer du début. Au niveau de l'école, je parle beaucoup de l'école parce que c'est quelque chose qui revient un peu dans tous les témoignages des prisonniers des différentes générations. Par exemple, pour pouvoir avoir accès aux livres, il y a eu beaucoup de stratagèmes qui ont été inventés par les prisonniers, parce qu'au début, ils n'avaient vraiment pas de silos, pas de feuilles, rien. Après, à la suite d'une grève, la Croix-Rouge a commencé à faire rentrer certains livres, certains journaux, et c'est vraiment à travers les familles qui ont fait entrer de façon clandestine des livres que les prisonniers ont pu élaborer cette stratégie de capsula, ça s'appelle. Donc, l'idée des recopier des communiqués ou des essais politiques, mais aussi des messages secrets avec des codes qui étaient un code particulier qui était connu partout, en tout cas dans toutes les prisons. Et donc, dans chaque section de la prison, il y avait un détenu qui était responsable de décoder ces messages et donc de retransformer tous ces messages codifiés à la fois en livres, à la fois en lettres, en communiqués, et qui pouvaient après circuler des prisons en prison. Pareil, ça change aussi du type de prison, parce que les camps d'enfermement qui se trouvaient dans les déserts, les prisonniers étaient dans des tentes, donc dans le désert, et donc les communications, c'était aussi plus facile. Ils utilisaient par exemple des pierres avec des messages, et ils les balançaient d'une cellule à l'autre. Donc il y a différents, mais en tout cas, ça s'est élaboré d'un côté en secret. Et après, de l'autre côté, d'une certaine façon, l'administration pénitentiaire, je pense qu'au bout d'un moment, il a préféré avoir en tout cas un mouvement, des prisonniers qui s'auto-réglaient, en tout cas qui se réglaient, plutôt que des ennemis, des menaces terroristes, comment ils les considèrent, qui n'ont aucune réglementation et qui sont tous un peu comme des cellules, comme des
électrons libres.
Voilà, des électrons libres. Et donc, ça a été pour ça aussi que, d'une certaine façon, elle a laissé faire, tout en étant attentive à casser toute victoire dès qu'elle pouvait.
Moi, j'ai une question par rapport aux femmes, parce que il y a beaucoup moins de femmes dans les prisons, et je crois savoir qu'elles sont emprisonnées avec les Israéliennes de droit commun. Et je voulais savoir si pour elles aussi, la prison, c'était un peu un lieu d'éducation, de formation politique.
Alors, la question des femmes en prison est très compliqué, est aussi plus ambigu dans les rapports à leur société de celle des hommes. Donc c'est sûr que les femmes n'ont jamais, la prison a intéressé moins les femmes, même s'il y a toujours des femmes qui sont en prison et qui ont été en prison, et des femmes aussi condamnées à la peine à perpétuité. Les femmes prisonnières sont mises effectivement avec les prisonnières des droits communs israéliens, donc israéliennes. Donc d'un côté, elles ont toujours été moins pour pouvoir s'organiser, et donc mais ça a été comme, il y a eu aussi des cas où elles ont lancé des grèves qui ont été suivies par les prisons des hommes ou le contraire. Donc elles étaient quand même en communication, surtout à travers les familles qui allaient visiter parfois les hommes et parfois les femmes et qui amenaient des messages. Donc il y a eu des luttes communes. Et pour certaines, la prison a été aussi un lieu de découverte et d'engagement féministe aussi. Ça l'a été pour des femmes qui donc se sont retrouvées parfois emprisonnées pour faire la pression sur leurs proches. Donc parce que certaines femmes qui donc se sont retrouvées, parce que les femmes militantes, donc il y a des femmes militantes évidemment qui se sont retrouvées en prison pour des actions qu'ils ont faites, et d'autres qui se sont retrouvées en prison pour une sorte de chantage envers leur mari, leurs frères, etc. Et donc souvent cette femme-là, elles se sont retrouvées en prison sans trop savoir pourquoi, et ça a été aussi l'occasion, cette rencontre avec des femmes militantes palestiniennes, d'une politisation à la fois d'un point de vue de la lutte pour la libération, mais aussi d'une lutte d'émancipation, d'une lutte féministe, etc. En même temps, le rôle de la position que la femme prisonnière a dans la société palestinienne ou a eu dans la société palestinienne, une fois sortie, n'est pas la même que l'homme, parce que l'homme est tout de suite considéré le héros qui a vécu la prison, qui a résisté en prison, tandis que dans le cas de la femme, c'est d'un côté, évidemment, il y a la fierté pour ce qu'elle a fait en prison, mais il y a toujours ces doutes des attouchements, du viol, de harcèlement sexuel. Et avec une, sans être essentialiste, mais une culture qui souvent se joue, où l'honneur se joue souvent sur le corps de la femme, cette question de la femme qui sort des prisons a été toujours très ambiguë, parce que d'un côté, elles sont célébrées comme les autres, mais après, dans la réalité, elles ont souvent du mal à trouver, à se marier. Quand elles sont mariées, souvent, elles divorcent. Elles ont été, en tout cas, mises un peu de côté une fois qu'elles sortaient. C'était très compliqué d'être réintégrées. Et c'est pour ça que dans les années 60, fin années 70, je pense, années 80, des groupes de femmes prisonnières, en particulier du FPLP, elles ont mis en récit leur viol et les tortures qu'elles ont subies en prison, donc pour rompre cette idée de cacher, de ne pas en parler, etc., pour mettre au contraire en avant que l'honneur, c'était pas dans leur corps qui était violé, mais c'était dans la résistance qu'elles, comme les hommes, ont eu malgré toutes ces tortures. Et du coup, ça a amené à une réflexion et une remise en discussion aussi du rôle de la femme dans la résistance, et des femmes en particulier prisonnières. Dans les cas... des femmes de Nabi Saleh avec qui j'ai parlé, c'est un village en tout cas où les femmes ont une place spécifique dans la résistance, c'est un village où les femmes participent beaucoup, et donc quand elles en parlent, elles parlent pas beaucoup de ce côté-là, elles parlent pas très clairement d'une sorte de mise à côté des femmes qui se sont, et des stigmatisations des femmes prisonnières, mais dans d'autres cadres, j'ai rencontré des femmes qui m'en ont parlé. C'était pas dans le cas de Nabi Saleh. Mais donc oui, la situation des femmes en prison est globalement plus compliquée à la fois, et évidemment l'autorité israélienne profite de ça, donc c'est tout le temps des menaces d'ordre sexuel, c'est tout le temps à la fois aux prisonniers hommes, qui donc c'est des menaces d'ordre sexuel envers lui, mais surtout envers sa femme, sa mère, sa sœur, etc. Parfois ils ont amené la mère, la sœur d'un prisonnier, et on fait semblant, ou parfois ça s'est vraiment produit, de l'harceler ou de la violer devant le prisonnier. Et pareil, dans le cadre de la femme, il y avait cette technique qui s'appelait l'iskrat, qui c'était créer des photomontages où les femmes couchent avec des soldats israéliens et après les menacer de les diffuser dans leur société, pour les obliger à collaborer, pour obliger leurs frères, leurs maris, leurs pères à sortir de la clandestinité, à se faire arrêter à leur place, etc. Donc oui, c'est une question plus compliquée.
Alors, tu as parlé de la formation. Tu as parlé là aussi à l'instant. Tu parlais de la place des femmes, mais tu disais oui, elles sont peut-être moins. On en fait moins des héroïnes, alors que les hommes, on en fait des héros. Et ça, ce serait important, oui, peut-être d'en dire un mot. C'est-à-dire qu'évidemment, on comprend bien que la prison pour le peuple palestinien est extrêmement importante, et donc faut essayer de lui trouver du sens, faut essayer de lui trouver de l'utilité. Donc ça passe par la formation, mais ça passe aussi par la création de cette figure du prisonnier très importante.
Oui, donc le prisonnier palestinien est souvent le protagoniste de films, mais des tableaux, des poèmes. Beaucoup d'écrivains palestiniens ont été en prison et ils en parlent, ils écrivent des poèmes sur ça, etc. Et donc, il y a une sorte d'héroïsation du prisonnier qui est dans, et cette héroïsation a différents côtés, et aussi parce que si d'un côté, par exemple, les jeunes qui parlent de leur arrestation, ils contribuent un peu à cette vision héroïque d'eux-mêmes, parce que c'est aussi une façon de redonner du sens à l'expérience vécue. Et donc, c'est vraiment la mise en avant de comment ils ont résisté aux interrogatoires, aux tortures, de comment ils ont répondu à l'officier israélien qui les interrogeait, de comment, par exemple, dans certains cas dont je parle dans le livre, l'officier a reconnu pendant l'interrogatoire, a reconnu le fait qu'ils étaient des fils des prisonniers qu'ils avaient déjà interrogés auparavant, et donc il disait lui il parlera jamais, c'est le fils d'un tel. Donc il met en avant vraiment cet héroïsme et cette soumoud, cette idée, cette terre palestinienne d'ailleurs. Samidoun, l'association dont vous parlerez, ça vient de là. C'est vraiment cette idée de résister, de la fermeté, de résister malgré tout. Et donc cette idée de soumoud qui est mise en avant. En même temps, c'est certains adultes parlent d'une sorte de double déshumanisation liée aussi à cette héroïsation. Le fait donc que d'un côté, évidemment, les Israéliens les considèrent les prisonniers comme des terroristes, comme des personnes qui n'ont pas de droits, etc., comme des ennemis. Et en même temps, la société palestinienne, avec cette héroïsation, enlève d'une certaine façon, prive les prisonniers du droit à la faiblesse. Et donc parfois, il y a certains prisonniers qui ont purgé des peines, qui étaient censés purger des peines à perpétuité, qui sont sortis au bout des 20 ans, etc. Ils se disent que donc, parfois ils revendiquent aussi le droit à être une personne qui a des moments de fragilité, qui a l'idée de passer sa vie en prison, de ne jamais plus voir ses enfants, de ne jamais plus voir sa femme, a du mal à être dû, à être fort, à être toujours résistant, à ne pas avoir des moments de doute. Et donc cette question de l'héroïsation, c'est une question qui revient dans les témoignages. D'un côté, dans la part des Shabab qui participent carrément à cette héroïsation, à cette vision.
Shabab, c'est-à-dire les jeunes,
oui,
gens. Hein.
Les jeunes. Et donc, mais aussi dans les récits de certains prisonniers qui, en fait, on ne veut pas de cette héroïsation, dans le sens où ils disent oui, nous on a fait notre sacrifice, nous on continue notre lutte, mais nous on est des hommes, et donc on a le droit aussi au bout d'un moment de pleurer, d'avoir des moments où on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'est pas sûr de pouvoir tenir, etc.
Alors avant de faire une pause, mais pour clore peut-être ce petit moment sur le mouvement des prisonniers palestiniens, on va parler un petit peu d'actualité. Donc tu l'as dit, le mouvement est sûrement moins fort qu'il n'a pu l'être, notamment dans les années 80 et début des années 90, mais il y a quand même toujours des luttes de prisonniers palestiniens, des grèves de la faim importantes, et là je me tourne vers coup pour coup, on peut parler un petit peu d'actualité avec Bilal Hayed en l'occurrence, qui a été libéré le 12 décembre 2016, donc c'est tout récent. Et ça, c'était suite à une grève de la faim assez longue. Alors peut-être déjà dire qui est Bilal Hayed et dans quelle situation compliquée il se trouvait.
En fait, c'est un militant du FPLP qui a été emprisonné en décembre 2001 lors de la seconde intifada. Et donc, il devait être libéré en juin 2016. Et en fait, le jour de sa libération, les autorités israéliennes l'ont placé en détention administrative, donc ce que vous expliquiez tout à l'heure.
C'est ça, et c'est là qu'on apprend du coup que la détention administrative, elle peut aussi faire suite à une peine, c'est ça.
C'est ça, c'est en pas fait, forcément, normalement, c'est ce qu'on prend en direct, et on reste enfermé en détention administrative. Et là, c'était pour qu'il ne soit pas libéré, en fait, puisqu'il avait fini, on l'a placé en détention administrative. Du coup, ben, il pouvait rester enfermé sans limite quoi, de temps. Donc, suite à ça, il a fait une grève de la faim de 71 jours. Il y a une campagne de solidarité internationale qui s'est formée.
Que vous avez relayée d'ailleurs.
Qu'on a relayée à travers notamment le réseau Samidoun dont on va vous parler après. Israël a finalement dû fixer une date de libération et il est sorti là en décembre 2016.
Oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est compliqué de parler de victoire quand on parle de prison en Palestine, ça. Mais c'est quand même une petite victoire et c'est pas si souvent que...
Les militants de Samidoun, ils ont tendance à dire que ben, malheureusement, quand on commence à parler des prisonniers dans les pays un peu occidentaux, pour Israël, c'est toujours plus inquiétant que quand ça reste simplement en Palestine, parce que finalement, la voix des Palestiniens, ils s'en foutent tellement que ça va avoir peut-être plus de poids s'il y a des mouvements en Europe, aux États-Unis, etc. Donc sûrement que la campagne a dû aider. Bon, il faut dire aussi qu'une grève de la faim de 71 jours, c'est vraiment très très long et très dangereux. Mais ce qui était surtout très important, c'est que c'était justement la première fois en fait qu'il y avait cette histoire de détention administrative post-peine, on peut dire autrement. Et donc c'était hyper important qu'il y ait cette victoire-là pour pas que ça soit que ça devienne un peu généralisé quoi.
Ah, ben, okay, précédent,
ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, il doit sortir, ben on le met en détention administrative, il sortira jamais quoi.
Après, c'est un cas qui a bien remobilisé un peu. Enfin, j'ai l'impression la question de la solidarité aux prisonniers politiques palestiniens.
Dans la société palestinienne.
Dans la société palestinienne, c'est-à-dire on s'est mobilisé à l'extérieur, mais aussi les Palestiniens en Palestine, il y a une grosse mobilisation, ce qui se voit moins depuis, ce qui était beaucoup le cas à la première intifada.
Oui, c'est ce qu'elle disait après la césure, c'était moins fort, et c'est vrai que là, ça a pris beaucoup d'ampleur aussi en Palestine. Ouais.
Bilal Rayed, Bilal Rayed libéré le 12 décembre dernier. Allez, on va se faire une pause musicale dans le magazine de Canal Sud. On reste dans le hip-hop, parce qu'évidemment, en Palestine, comme dans beaucoup d'endroits, le hip-hop est un moyen privilégié d'expression de la colère, du combat. Voilà, ça reste une musique de combat. On écoute Gaza Team. Je ne vais pas vous faire le titre en arabe, mais la traduction, c'est « Laisse-moi m'envoler ».
خلي صوتي يكون عنده صدى خليني نضيل حر بجانب الامضاء خليني ما نحكيش هذا قدر وقضى الكلمة سلاح القلم ضد حادة خلي احلامنا تصبح مادة خلي الحرية تصبح كل يوم عادة نختل لما الفرصة ما نستناش الاعادة عندك حلم عنده حلم عندنا حلم عندنا حلم اكسر كل الحواجز يا خوي وما تهتم اختال الياس وضلك دايما متقدم الاخطاء اللي تكسرنا بالعكس منها نتعلم بدي اغني حلق اوصل للسما ما في حد من اليوم يمنحها يابا اعتبرني مجنون او مختل عقليا بس ما بتنازل عن حلمي نهائيا بدي احلق بدي اطير بدي اتسلى اطلع من البير بدي افرح بين الشر والخير بدي اكون حر واللي صار يصير بدي احلق بدي اطير بدي اتسلى اطلع من البير بدي افرح بين الشر والخير بدي اكون حر واللي صار يصير غمض عيونك ارجع ورد صغير تيجي من الحاره حافظ فروس تحت المطره وانت لا مبالي بالطرف السما بتقول يا الله شو مكبرها معقول يوم من الايام بقدر المس بطير مع طيور برسم شمس على الصخور بسارع مع الريح وانا صغير كنت سريع متذكر اول بسمه متذكر اول لحظه متذكر اول حب حبيته حب البراءه وانا صغير كنت بريء بحلم اكون جميل كبرت وصرت غريب في بلاد عبر سبيل موسيقى طيرتني في السما بلا اجنحه راكب بصوت الريح ونسيت كل الاقنعه طاير 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 محلق محلق لم السما كل
كل مغرب إلها قلبي مليان وما غمض عيونك ارجع ورد صغير السما هتجيك غمض عيونك طير ما تخلي الدنيا تسيك
بدي أحلك بدي أطير بدي أتسلى أطلع من البير بدي أفرح بين الشر والخير بدي أكون حر واللي صار يصير بدي أحلك بدي أطير بدي أتسلى أطلع من البير بدي أفرح بين الشر والخير بدي أكون حر واللي صار يصير
بدي أحلك بدي أطير بدي أوصل لحدود السماء
يخرج اليوم ما يستناش بكرة خلي الموسيقى تصبح منطقة حرة لا حدود لا حواجز هذه المرة يلا هالكل معنا في مسيرة وحدة الوحدة لازم تكون في وقت الشدة يلا هالكل لازم يحضر العدة الحرية بتنادي يلا انطير ليها
بدي أحلق بدي أطير بدي أتسلى أطع من البير بدي أفرح بين الشر والخير بدي أكون حر واللي صار يصير بدي أحلق بدي أطير بدي أتسلى أطلع من البير بدي أفرح من الشر والخير بدي أكون حر واللي صار يصير
Gazatim, laisse-moi m'envoler. Gazatim, ce sont des Gazaouis, comme leur nom l'indique, mais ils sont exilés à Paris. Et du coup, ce clip-là, laisse-moi m'envoler, bah, vous pouvez le trouver sur une célèbre plateforme de vidéos en ligne, voilà, avec les sous-titres en français, si ça vous intéresse. Voilà, c'était la première partie de cette émission, de cette longue émission consacrée aux prisonniers palestiniens et à la place que la prison prend dans la colonisation israélienne en Palestine. Bon, la suite de l'émission, ce sera demain, hein, toujours dans le magazine de Canal Sud à partir de midi demain, mardi 7 mars. On vous rappelle qu'en ce moment se tient la semaine contre l'apartheid israélien. C'est une semaine international. Hein. Cette année, le thème, c'est 100 ans de colonialisme, 100 ans de résistance populaire pour la justice, car 2017 est considéré comme le centenaire du début de la lutte du peuple palestinien contre la colonisation israélienne. Voilà, même si l'État d'Israël, évidemment, on le sait, a été créé après-guerre. Dans le cadre de cette semaine contre l'apartheid israélien, plusieurs rendez-vous à Toulouse. On vous en a donné un tout à l'heure, hein, le mercredi 8 mars à 12h30 au foyer de sociologie de l'université du Mirail, donc l'université Jean Jaurès comme on l'appelle aujourd'hui. Il y aura la projection du documentaire Wandering Roots sur la colonisation dans le désert du Nakab. Cette projection est ouverte à toutes et tous, c'est gratuit. Et donc c'est à 12h30 mercredi au foyer de sociologie au Mirail. Il y a d'autres rendez-vous prévus et il y en avait notamment un autre qui, enfin il est toujours prévu pour le moment, à la fac du Mirail, c'est jeudi. Jeudi à 12h30, si tout se passe bien, à l'Amphi 9, conférence débat avec Azem Jamjoun. C'est sur justement autour du thème 100 ans de colonialisme, 100 ans de résistance palestinienne. Donc c'est à 12h30 à l'Amphi 9 à la fac du Mirail, mais c'est à confirmer car ce rendez-vous est menacé par la direction de la fac du Mirail. La campagne BDS, boycott, désinvestissement et sanctions, la campagne BDS qui est très active hein, dans l'organisation de cette semaine contre l'apartheid israélien, notamment en France, a alerté hein, récemment ses réseaux contre la possibilité d'une annulation de ce rendez-vous. Je vous lis une petite partie du communiqué qu'ils ont sorti le 5 mars dernier. Voilà, cette année encore, Israël et ses relais tentent de faire interdire cette initiative étudiante et citoyenne. Alors que les pressions ont déjà commencé en Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui au tour des étudiants et étudiantes en France d'en être la cible, à Toulouse, Rennes, Paris, Lyon, Marseille, etc., etc. D'après un communiqué publié le 3 mars via le Times of Israel, Aliza Ben Noun, l'ambassadrice de l'État d'Israël en France, déclare avoir envoyé une lettre aux maires de 9 grandes villes françaises française pour leur demander purement et simplement de censurer la semaine contre l'apartheid israélien. Nous souhaitons donc rappeler à Israël et ses soutiens que les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissent non seulement aux citoyens la liberté d'opinion et de conscience, mais également la liberté de communiquer cette opinion, le racisme n'étant pas une opinion. Comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Mais, écrit BDS, Israël n'est pas une démocratie, c'est une puissance occupante qui colonise en toute impunité des terres, en expulse leurs habitants, discrimine les citoyens citoyennes en fonction de leur appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou à une religion. Voilà la réalité que la Semaine internationale contre l'apartheid israélien met en lumière chaque année, et les manœuvres d'Israël pour la faire interdire ne font que renforcer ce constat et notre détermination à soutenir la résistance populaire palestinienne. C'est pourquoi, en dépit des risques sérieux d'atteinte à la liberté d'expression qu'elle représente, cette réaction de l'ambassade montre le succès grandissant de cette semaine contre l'apartheid israélien et du mouvement BDS en général, qui touche là où ça fait mal, une puissance coloniale de plus en plus isolée sur la scène internationale. Voilà, donc on verra mercredi et jeudi si la fac du Mirail a résisté aux pressions des autorités et de l'État d'Israël. Voilà, demain dans le magazine, deuxième partie donc de cette émission consacrée aux prisonniers palestiniens, on y parlera plus du livre lui-même, hein, du livre d'Assia Zeno, Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens. C'est aux éditions Agone.